Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et en ce dernier vendredi du mois, un peu de philo pour prendre un peu de hauteur avec notre vie quotidienne. Et si nos chiens étaient des maîtres de philosophie, vous verrez ce matin que le meilleur ami de l'homme peut nous aider à percevoir le monde autrement et à devenir meilleur. Nous devrions peut-être nous inspirer de leur amour inconditionnel, de leur ancrage dans le moment présent, de leur joie que Spinoza n'aurait pas renié, de leur sens du jeu à prendre très au sérieux, ou encore de leur fidélité absolue. Nous recevons ce matin la professeure de philosophie Audrey Jougla et la journaliste Yolaine de la Bigne. Racontez-nous ce matin ce que vos chiens vous ont appris au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo? Vous rigolez parce que j'ai écorché les noms de mes invités.
Je souris.
Oui,
je
vous avez bien raison.
Voilà. C'est vous qui riez, c'est très philosophique. C'est un sourire philosophique.
Je souris donc avec beaucoup de douceur parce que ce matin, je vous emmène donc à la découverte de la puissance de la douceur.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre ami cette semaine?
Je suis tellement contente d'être en fait d'accord avec Thibaut d'une certaine manière, parce que je vais vous parler de douceur aussi, mais moi je vais faire miaou.
Tout à l'heure. Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui préfère que je la tutoie tout au long de cette émission. Une chronique sexe très bestiale en fin d'émission.
Oui, tout à fait. Je vois que mes deux collègues vont parler de douceur, alors moi ça va être le contraire, tout simplement. Le sexe bestial.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Comment tu veux expliquer ça? Un jour t'es un chien, le lendemain t'es un homme. Je crois même pas ce que je viens de dire. La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré. Et tu sais, on sait pas tout, hein. Mais les hommes, ils savent pas tout, hein. On sait des trucs, mais on sait pas tout.
Extrait de Didier d'Alain Chabat. Bonjour Audrey Jougla.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie, militante de la cause animale à travers votre association Animal Testing, qui défend les animaux de laboratoire. Et vous publiez un livre très intéressant, Montaigne, Kant et mon chien, aux éditions Delachaux et Niestlé. Un court essai qui met votre vie en scène avec votre chienne comédie, avec quelques notations philosophiques. Bonjour Violaine Delabigne.
Bonjour Ali.
Fondatrice du site L'Animal et l'Homme. Vous êtes notre complice sur les émissions consacrées aux animaux. Vous avez notamment publié chez Le Duc les 12 sagesses des animaux. Inspirons-nous des animaux pour vivre. Sagesse animale, ça ressemble à un oxymore.
Ah, sagesse.
Je vous attaque dès le début.
Absolument. Mais c'est sagesse au sens bon sens du terme. C'est pas on se lève pas le matin en prenant Nietzsche. Non. Mais c'est toute cette sagesse extraordinaire des grands-mères qu'on a un peu oubliée et on ferait bien de s'en souvenir.
Alors vous, Audrey Jougla, vous avez beaucoup appris de votre chienne comédie. Elle vous a transmis des valeurs. Elle vous a aidé à devenir meilleure. Tout au long de ces 13 années et demie de vie, elle vous a montré le chemin.
Oui, tout à fait. Et c'est, ça peut paraître étrange ou parfois on peut se dire est-ce que c'est pas un peu exagéré. En fait, non, pas du tout. Je pense que justement le chien, justement cet animal est très particulier parce que il partage une intimité avec son maître que les autres animaux n'ont pas. Et l'interaction qu'on a avec son chien, elle est unique parce qu'on l'a, on n'a pas cette nature-là de lien avec d'autres humains, pour plein de raisons. Et c'est vrai que c'est à son décès que j'ai pris conscience de tout ce qu'elle m'avait appris, en effet.
Alors, comédie, votre chienne était assez mal en point, aussi maigre que sale, quand vous l'avez adoptée. C'était un chiou abandonné dans un carton à Mendoza, à l'ouest de l'Argentine, c'est ça?
Oui, c'était le périple commence en Argentine. Ce livre, c'est aussi un voyage géographique, parce qu'on a beaucoup déménagé pendant 13 ans. Et donc, ça commence en Argentine, en effet. C'était un chien abandonné, comme il y en a beaucoup. C'est un pays où il y a aussi beaucoup de chiens errants. Et moi, je voulais justement adopter un chien qui était mal en point pour un peu le sauver, l'aider. Enfin voilà, je me voyais un peu essayer de donner une meilleure vie à un chien mal parti. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et vous vous êtes choisi, ce fut un amour immédiat. Et c'est peut-être votre chienne qui vous a choisi.
Eh ben, on ne sait pas. C'est une excellente question. Qui choisit qui? Mais je pense que dans la rencontre avec un chien, entre un chien et son maître, en effet, il y a quelque chose qui tient peut-être du destin. Mais en tout cas, il y a un choix qui se fait, je pense, entre l'animal et son maître. Mais de quel côté, c'est la question.
Vous parlez de coup de foudre adoptif.
Oui, et amical, ouais, quelque part. Hein, parce que c'est vrai que c'est une rencontre. Mmh. Et on part pour un voyage qui va durer plus d'une dizaine d'années. Donc, mmh, c'est pas rien, en fait. Hein. Et ça aussi, il faut le mesurer, et c'est l'occasion aussi de le redire, mmh, à tous ceux qui prennent des chiens, mmh, c'est un engagement sur le long terme.
Parce que c'était elle, parce que c'était moi.
Oui, pour paraphraser notre ami Montaigne.
Votre chienne vous a beaucoup appris. Vous dites que ce que le chien vous a enseigné, votre chienne vous a enseigné, passe inaperçu au tout début et pendant une grande partie de sa vie.
Oui, je pense que le tour de force du chien, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de la place qu'il occupe, de son importance, et surtout de ce qu'il nous enseigne. C'est-à-dire que c'est un compagnon qui est tellement ancré dans notre quotidien, dans notre vie ordinaire, qui est tellement là, présent, et on s'y habitue énormément, mais finalement on questionne assez peu ce qu'il nous apporte quand on vit avec lui. Et en effet, je pense que c'est au moment du décès du chien qu'on prend conscience de tout ce qu'il nous a appris, de tout ce qu'il nous a apporté. Et c'est là aussi le tour de force de cet animal.
Votre chienne Comédie vous a tout d'abord appris à percevoir le monde être autrement.
Oui, dans le sens où en effet c'est un monde animal, le monde du chien, et c'est un monde qui est complètement différent du nôtre, parce que le rapport au temps est évidemment pas le même, le rapport à la routine n'est pas le même non plus. Le chien apprécie beaucoup les habitudes, c'est un être de routine qui vit dans le présent, donc aussi sans se préoccuper, sans avoir l'inquiétude du futur ou le remords ou le regret qui nous ronge, nous autres, par rapport au passé. Donc c'est un autre monde dans lequel on rentre, et je trouve que c'est un monde qui est quand même parfois beaucoup plus sain, que plus simple et plus sain que notre monde humain.
Yolaine de Labine.
Alors moi je dirais que tous les animaux sont des philosophes d'une certaine façon. D'ailleurs l'ancêtre du chien qui est le loup est un grand philosophe. Il y a une Allemande qui était avocate et qui a tout abandonné pour s'occuper des loups. Elle est une des celles qui les a plus observées à Yellowstone. Elle a écrit un livre qui s'appelle La sagesse du loup, qui est un livre génial que je vous conseille, et où elle donne justement tous ces signes de sagesse chez les animaux sauvages, alors que chez les chiens parfois, comme ils sont trop près des humains, ils deviennent eux aussi un peu maboule et ils vivent un peu souvent n'importe comment. Mais ça c'est une autre. Et je vais vous donner par exemple un exemple qu'elle donne. Il y a le philosophe Marc Rolland qui a écrit le philosophe et le loup, et il parle de l'ennui dont Audrey parle dans son livre. Et j'adore cet exemple. Il dit le coup du pain au chocolat. Vous donnez tous les matins un pain au chocolat à un chien. Il est ravi. Toute sa vie, c'est le bonheur, il remue la queue, c'est exact. Vous donnez un pain au chocolat aux humains. Il est content, puis au bout d'un mois, il dit ouais, t'as pas un pain au raisin, parce que ça va, quoi. Ça fait un mois qu'on se tape un pain au chocolat. Et en fait, c'est ça, c'est cette façon d'aimer la vie, d'aimer le présent, d'avoir de la joie. Ça, c'est déjà une grande leçon de sagesse.
En sachant qu'il faut éviter de donner du chocolat aux chiens.
C'était une parabole.
Oui, exactement. Audrey Jougla, partager la vie d'un chien est synonyme de contrainte. Hein. Il faut se préparer à voir sa vie changer, accepter des contraintes nouvelles. Vous écrivez, quelque part, le chien vous force à quitter l'insouciance du temps, l'adolescence, de la durée.
Oui, parce que on sort d'un temps qui est assez égoïste, qui est un peu infini, qui est celui où on n'a que soi à penser. J'y avais pas du tout réfléchi au moment de prendre un chien, et je m'en suis rendu compte très vite. C'est-à-dire que comme le chien est très dépendant de son maître et qu'il doit sortir, forcément ça induit un autre rapport à l'extérieur, qui est très bénéfique, mais aussi aux contraintes, et les sorties sont très répétitives. Donc forcément ça morcelle les journées. Moi je me voyais pas du tout laisser mon chien 8 heures de suite enfermé, c'était pas du tout ma vision des choses pour son bien-être. Donc j'ai dû m'astreindre pendant toute sa vie, donc pendant plus de 13 ans, à trouver des solutions pour qu'on puisse toujours sortir le chien en milieu de journée, revenir, etc. Et ça, c'est important d'en prendre conscience aussi, parce que c'est un rapport au temps où on devient responsable et où l'autre prime par rapport à ce que nous, on a parfois envie de faire.
Et pour vous, les contraintes sont riches de sens. Pour vous, sortir votre chienne comédie aux aurores, avant de vous coucher le soir, en plein hiver dans le froid, ce ne sont pas des contraintes.
Oui, c'est un sens du devoir qui s'installe et une certaine responsabilité. En fait, parce qu'on transforme la contrainte. C'est-à-dire, si on le perçoit comme une contrainte, je pense que c'est un peu comme les enfants. Là où on perçoit des contraintes, on est malheureux. Quand on comprend que ça devient au contraire des obligations et qu'on a intégré que c'était notre choix qu'il fallait l'assumer et qu'on avait pleinement choisi d'avoir un chien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le blâmer d'être là et lui en vouloir. C'est à nous d'assumer ça. Et donc, à ce moment-là, ça devient un sens du devoir et de l'obligation qui s'instaure.
Yolaine.
Alors, je dirais que je suis complètement d'accord, et les obligations, je parlerai de rituels, en fait. Ce sont tous ces rituels qui rythment la vie et qui font que la vie devient peut-être plus sécurisante, et les animaux savent très bien faire ça dans la nature, et du coup, cette sécurité vous permet d'être libre, de pouvoir réfléchir, inventer, être vous-même. Et sans rituel, la vie est très compliquée, on le sait bien, d'ailleurs, dans la vie humaine, on a des rituels, heureusement. Et le chien, pour ça, est un espèce de phare.
Et oui, le chien nous ancre dans une routine, et vous avez appris à aimer ça, Audrey Jougla. Cette routine donne des repères. Ça peut paraître contre-intuitif, mais pour vous, l'habitude, la routine, eh bien, c'est source de surprise.
Oui, dans le sens où, en effet, alors je rapproche ça aussi de Kant et de Kierkegaard, qui ont parlé de la répétition et qui étaient aussi très proches de la routine. Kant avait sa balade.
Oui, la balade rituelle, la balade quotidienne, Kant, à heure fixe, à Königsberg, je parle sous
le contraire. C'est ça, et les habitants étaient tellement ponctuels que les habitants pouvaient savoir quelle heure il était en le voyant passer. Enfin, en tout cas, c'est la légende.
C'est la légende, oui. Et c'est vrai que ça peut être synonyme de surprise, parce qu'on peut découvrir autre chose. Et déjà, moi, j'ai découvert mon quartier, ce qui peut paraître anodin, mais j'ai découvert d'autres personnes. On rencontre beaucoup de monde quand on se promène avec un chien.
Oui, c'est un formidable instrument de sociabilité, un chien.
Ouais. On parle avec les gens. En fait, on a accès à un rapport avec des inconnus qu'on n'a pas sans le chien. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant dans la vie courante. C'est-à-dire que quand on voyage avec son chien, on parle beaucoup plus facilement, on touche les enfants aussi, les adultes, enfin, c'est beaucoup plus facile.
Et puis alors, le chien, comme les autres animaux, ça vous aide à respecter votre corps. C'est un truc qu'on a beaucoup de mal à le faire, surtout dans notre société contemporaine. Et le chien, pour ça, est génial. En effet, marcher, d'ailleurs, toutes les études montrent que les propriétaires de chiens ont des meilleurs rythmes cardiaques, ont moins de problèmes, etc. Respirer. Ça paraît idiot, mais les animaux savent très bien respirer. Nous, on est obligé de prendre des cours de cohérence cardiaque, on paye des gens pour savoir respirer, alors qu'un chien, il vous regarderait, il se dirait, mais non, mais il est ma boule, celui-là, parce que le minimum syndical, quand même, pour un être vivant, c'est de savoir respirer. Manger correctement. Dans la nature, vous n'avez pas d'animaux, de loups, par exemple, trop gros. Les chiens, malheureusement, quand ils deviennent obèses, quand ils sont trop proches des humains. Mais dans la nature, si vous êtes trop gros et que vous nourrissez mal, vous faites pas feu longtemps. Donc, les animaux savent très bien manger parfaitement. D'ailleurs, Noreen Chai, qui a écrit Sagesse animale, il dit les animaux mangent avec leur estomac, les humains mangent avec leur cerveau. Vous avez bien mangé, vous êtes bien, mais oh, il y a une petite tartelette au chocolat, là. Quand même, je vais me la faire, alors que je sais que c'est pas sérieux. Et c'est pour ça qu'après, vous êtes un peu trop gros, vous êtes trop lourd, etc. C'est tiré. Regardez un chien le matin, il s'étire, ou un chat, alors que nous, on est là, oh mon Dieu, le réveil, vite, vite, et hop, on saute de notre
téléphone.
Lit. Ah, enfin, j'ai mal au lombaire, mon Dieu, je vais pas bien, etc. Donc je trouve que les animaux sont juste ça, respecter son corps, ils nous apprennent déjà ça, et c'est déjà beaucoup.
Allez, il est 10h18, c'est déjà l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, quel personnage de fiction mérite toute notre amitié cette semaine?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, loin de moi l'idée d'être intolérante. Et vous verrez à quel point aujourd'hui, plus que tout autre, je ne le peux point. Mais à la philosophie canine, je préfère la féline. Impossible de ne pas méditer devant un chat qui vous scrute en silence, comme s'il souhaitait vous parler. Cet animal vous interroge-t-il? Ou a-t-il déjà toutes les réponses sur le sens de l'existence, et il préfère les garder pour lui? Alors, je voudrais vous présenter l'un de mes amis très chers. Si exemplaire dans sa volonté de comprendre les humains, ce qui les trouble, et surtout, ce qui, hélas, les rend intolérants depuis la nuit des temps. Le chat du rabbin. personnage central de la série de BD Triomphal, du même nom du génial Johann Sfar. Ce chat gris, maigre, aux très grandes oreilles et aux yeux comme des soucoupes, se met à parler après avoir dévoré le perroquet du rabbin. Afin de pouvoir rester aux côtés de sa maîtresse, Zlabia, sublime beauté orientale dont le prénom évoque le miel et la cardamone, le félin demande à faire sa bar mitzvah. Évoluant dans l'Alger du début du XXe siècle, il sert ainsi de narrateur de la culture juive d'Algérie et fait preuve d'un esprit critique aussi drôle que tendre. Il veut apprendre la Torah, certes, mais quand il fait la lecture à sa maîtresse, il choisit Stendhal.
Mortellement effrayée par l'apparition de Julien, Madame de Rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes. Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça?
Qu'est-ce que vous lisez?
Stendhal.
Le rouge et le noir.
C'est le chat qui lit. Depuis quand tu sais lire, toi?
Depuis toujours, j'ai appris en même temps que ta fille, mais avant tu ne le savais pas, je miaulais.
Le rouge et le noir, c'est politique, ça. C'est le chat qui te met cette propagande entre les mains.
Quelle propagande, papa?
Non, maître, c'est un roman d'amour.
Alors, en fait, le chat du rabbin questionne les récits, tous les récits. Ceux de la philosophie, comme ceux de la littérature, ceux des croyances populaires, comme ceux des religions, toutes les religions, renvoyant dos à dos, mais si tendrement, les juifs, les chrétiens et les arabes.
Et votre ami nous invite donc à penser au-delà des préjugés.
Avec lui, ce satané thème de l'identité devient un voyage drôle et ensoleillé dans les richesses de l'altérité.
Mais comment Johann Sfar a-t-il pu penser à un chat comme héros?
Eh bien, il a juste mis en pratique avec génie ce que les amoureux des chats ressentent au quotidien. Alors, je récapitule, un jour, il se rend chez une éleveuse, un chat de race orientale, littéralement le choisit, sautant dans la poche de son manteau. Alors le chat était étrange, assez moche pour tout dire. Sfar le garda et le chat miaulait tout le temps. Alors dans une interview, l'auteur expliqua « Alors au début, tu te dis qu'il est con. Et puis tu te dis qu'il essaye peut-être de t'expliquer un truc, mais que tu ne comprends rien et que ça aide toi être tellement douloureux pour lui. » Alors tous les propriétaires de chats bavards pensent ça en fait. Mais ils n'ont pas le trait d'esprit et le trait de crayon de Sfar qui 2 ans plus tard en faisait le héros d'une BD qui brasse les cultures, embrasse les religions, comprend les contradictions, ne se moque de personne et appelle à la sensualité et à la sagesse. Et si mon ami le chat parle, il y a aussi des moments où il choisit de se taire. Car le plus bel enseignement de ce philosophe à poil gris est d'abord de savoir écouter. De plus, tout l'amour de ce délicieux sceptique va à une femme. Sa maîtresse Zlabia. En fait, grâce à mon ami le félin et cette jeune femme si féline, eh bien il n'y a qu'une philosophie qui vaille, celle de la caresse comme vérité universelle.
Yolaine de la Vigne.
Merveilleux, c'est vrai que le chat, c'est un grand philosophe. D'ailleurs, il y a un livre sur le chat du Bouddha, pareil. Et c'est vrai, rien que ça, une première leçon, le chat, il s'aime. On n'a jamais vu de chat qui ne s'aimait pas. Même s'il est moche, comme vous dites, il s'aime. Il n'a pas besoin de faire de chirurgie esthétique comme nous, de se maquiller pour être plus joli. Lui, il s'aime comme ça.
Thibaut Saint-Maurice.
Mais je vous conseille un très joli texte de philosophe Jacques Derrida qui s'appelle « À poil devant un chat ». Où il parle de son expérience.
Ça, c'est pour Maya.
Voilà, de s'être retrouvé un jour nu devant son chat, alors qu'il partageait du coup avec son chat aussi une nudité, puisque son chat n'était pas habillé. Donc voilà, c'est le début d'une très belle analyse sur la relation.
Joël Sfar et Derrida, je pense que...
Voilà.
L'ami du vendredi à partager et podcaster sur l'appli France Inter. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Victorien Thomas avec l'aide d'Alice Galtier. La réalisation a été signée Théo Raison. La programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Sybille Clamins et Adèle Clagar. Dans quelques instants, vous verrez pourquoi nous devrions nous inspirer de nos chiens quand ils font la sieste ou quand ils jouent. Ce sera juste après les Rita Mitsuko. C'est comme ça, à 10h24.
C'est comme ça.
Mitsuko, c'est comme ça.
Oh, il est beau, il est beau.
Grand bien vous fasse.
C'est dingue, des fois, il a vraiment un regard canin.
Ali Rebéi.
Il y a toujours un petit peu une langue de cow-boy quand même. Hein.
Bah oui, mais essaie de lui brosser les dents, toi. Tu vas voir, tu vas t'amuser. C'est un vrai merdier à chaque fois.
Sur France Inter.
Oui, j'ai aussi un regard canin. Grand bien vous fasse, philo, en ce dernier vendredi du mois. Comment les chiens peuvent nous aider à philosopher, à être plus sages, en compagnie de la professeure de philosophie Audrey Jougla et avec la journaliste et militante écologiste Yolaine Delabigne. Et vous, racontez-nous ce que votre chien vous a appris.
Il ne s'agit pas d'imiter l'animal. Et je ne pense pas non plus qu'il s'agisse de considérer que l'animal est absolument au-dessus de nous. Il s'agit d'observer l'animal et de voir quelles leçons éthiques nous pouvons tirer de son mode de vie, dans la mesure justement où il n'est pas victime de l'artifice et où il est spontanément heureux à cause de cela, ou tout au moins autant aussi heureux qu'il peut l'être.
La philosophe Suzanne Husson dans Les chemins de la philosophie en 2020. Alors Audrey Jougla, vous tirez des leçons éthiques philosophiques de votre vie avec votre chienne Comédie. Votre chienne qui vous a appris à déculpabiliser de ne rien faire. Comédie semblait vous dire constamment « arrête-toi, repose-toi une heure, le monde ne changera pas ».
Exactement, et on a tous tendance, je crois, à avoir une bien haute idée de l'importance de ce que l'on fait, pour penser que, en effet, il y a toujours, on est pris dans ce qu'on doit faire, dans des urgences, dans des contingences matérielles, la vie courante, enfin voilà, tout un tas d'obligations aussi qu'on se donne parfois. Et c'est vrai que le chien, à côté de ça, dort beaucoup. C'est un animal qui dort beaucoup, qui aime la sieste, et c'est quelque chose qui donne à réfléchir, en tout cas, sur le fait de s'arrêter, être capable de s'arrêter, finalement, de se reposer, parfois de réfléchir, de méditer, enfin voilà, mais être capable de s'arrêter, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est encore plus difficile qu'il y a 20 ou 30 ans, parce qu'on est tout le temps connecté, parce qu'on est tout le temps sollicité, et c'est très, très dur, finalement, de réussir à se dire que le monde ne va pas s'écrouler, en effet, si on s'arrête, si on prend le temps de se reposer. Et on en revient à Pascal, qui nous dit, en effet, que le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Donc, ça donne à réfléchir là-dessus, en effet.
Yolaine Delabigne.
Alors, en effet, prendre son temps, aimer le temps tel qu'il est, c'est très compliqué pour nous. Et ça, les animaux nous donnent une très bonne leçon. Et je rajouterais, chez les animaux, moi, ce qui me fascine, c'est le sens de l'observation. Que soit le prédateur ou que soit la proie, dans la vie, il faut observer. Et nous, regardez dans la rue, c'est quand même dingue. Maintenant, on marche tous avec un iPhone en train de... Et on est complètement fous, parce que soit on se casse la figure, soit de toute façon, on voit rien. Et du coup, on rate tout. Et on sait très bien que avoir de la chance dans la vie, savoir profiter des choses, c'est observer le moindre détail. Les animaux sont des grands philosophes là-dessus.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est intéressant parce que toute la conversation qu'on a, en fait, elle s'inscrit comme une sorte de réaction à ce qu'on pourrait dire très vite. Attention, je vais faire 2000 ans d'histoire de la philo en une phrase, mais on a l'impression que ce qui a surtout intéressé les philosophes depuis 2000 ans, c'est d'essayer de penser la différence entre l'homme et l'animal. Parce qu'il fallait, en fait, construire une sorte de concept de l'humanité, de sagesse de l'humanité par opposition avec ce qui était le plus proche, à savoir le règne animal, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, toutes ces réflexions, et il y a une sorte de mouvement aujourd'hui hein, qui nous conduit à repenser les liens qu'on a avec le vivant, aussi parce qu'il y a une urgence hein, à le faire. C'est intéressant parce que ça permet aussi de retrouver l'animal en nous, en fait, et de recomposer l'humanité avec aussi une observation de ce qu'il y a et de ce qui demeure et de ce qui peut continuer à être entretenu comme une animalité en nous.
Guillemette Odissino.
Moi je vais dire une petite bêtise après ce magnifique développement. Donc bon, j'annonce moi aussi. Non, mais moi je pensais à la notion du mouvement, à la notion aussi un peu narcissique du fait que évidemment qu'on doit répondre immédiatement à ce SMS parce qu'autrement le monde va s'écrouler, etc. Alors, je vais parler des chats, pardon, mais quand vous avez un chat qui vient se blottir sur vous, mais quand je dis sur vous, hein, il est vraiment sur votre poitrine, les pattes sur votre visage, donc vous ne pouvez absolument plus bouger. Et là, ça vous fait, c'est le seul être qui fait le même effet qu'un bébé humain. C'est-à-dire que vous décidez de ne plus bouger. C'est impossible de le déranger. Il y a quelque chose, en fait, qui empêche votre corps de bouger, mais qui est incroyablement paisible. Et le téléphone a beau sonner 1000 fois, vous n'allez pas bouger.
Audrey Jougla.
Et pour rebondir justement sur l'aspect philosophique, sur ce questionnement qu'on a, et c'est vrai qu'il y a une mouvance aujourd'hui qui recherche l'animalité dans notre humanité, c'est aussi en réponse, je pense, en effet à l'urgence climatique et à la notion de vulnérabilité du vivant, mais aussi à l'essor technologique. Et c'est vrai que moi, mon chien m'a beaucoup appris là-dessus, à délaisser parfois une technologie qui était devenue envahissante et qui nous coupe du monde.
Une image du bonheur avec votre chienne, c'est vous en train d'écrire en rez de jardin votre chienne à vos pieds. Et vous dites que comédie est épicurienne au sens originel du terme.
Et oui, le jardin, c'est-à-dire que quand on parle du jardin à un prof de philo, il pense à Épicure.
Pourquoi est-elle épicurienne au sens originel
du
terme ?
Oui, dans le sens où avec le chien, on se reconnecte avec l'extérieur, avec le jardin, c'est-à-dire que mon chien m'a obligé à chercher des logements qui avaient un jardin, chose que j'adore. Donc finalement, c'était un très bon prétexte. Mais pour son bien-être, je me disais, voilà, un chien, c'était un chien de berger, en appartement, ça n'a pas de sens. Même si on fait beaucoup de sorties et de promenades, il lui faut un jardin de toute façon. Donc, en effet, on se retrouve à chercher et à retrouver le jardin. Là encore, dans un monde qui est très urbain, souvent, enfin pour une grande partie de la population, et donc on se reconnecte à la nature et à l'extérieur. Et on passe aussi beaucoup de temps dehors. Et c'est vrai que le jardin, ça nous invite à quelque part, c'est un refuge. Un refuge à l'abri du monde et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est de voir que moi j'ai beaucoup mieux écrit ou réfléchi sur ma table dans mon jardin que sous les néons d'une salle de classe en fait, par exemple. Donc,
alors avec comédie, vous avez renoué avec le sens du jeu, elle vous a appris à prendre le jeu au sérieux.
Ouais, c'est le côté subversif du chien. C'est en plus une époque où je faisais de la musique, donc je jouais de la musique. Et le jeu me paraissait une revendication contre le sérieux et contre les injonctions à avoir un vrai métier, en fait, comme on peut le concevoir parfois. Et le jeu, justement, qu'on peut voir comme une perte de temps.
Comme une addiction parfois aussi.
Aussi, ça peut l'être. Ou comme quelque chose de vain, dans le sens qui joue les artistes ou les enfants, finalement. Et le chien nous invite à jouer, à perdre du temps et à consacrer une dimension essentielle qui est le côté ludique qu'on perd quand on est adulte, sérieux. Et donc, il y avait quelque chose de subversif là-dedans qui me paraissait très intéressant.
Yolaine de la Bille.
Le jeu, c'est quelque chose qui passionne les éthologues. Marc Bekoff, qui était l'adjoint de Jane Goodall ou Darwin, ils ont beaucoup étudié le jeu chez les coyotes, chez les loups. Et en fait, le jeu, c'est pas du tout une perte de temps, c'est apprendre les règles de la société. Donc, ces animaux sociaux jouent tout le temps parce que ça leur apprend à gérer leur brutalité, à respecter l'autre. Et Darwin avait remarqué qu'il y avait pas de tricheurs dans la nature. Quand il y a des tricheurs, quand il y en a qui sont mauvais joueurs, qui trichent, etc., à un moment, ils se font virer du groupe parce qu'ils deviennent dangereux. Celui qui ment, celui qui triche, nous, on en a plein dans notre histoire, on en a beaucoup chez les humains, et ils marchent toujours très bien. Vous remarquerez, on a beaucoup, beaucoup de tricheurs qui ont vachement bien fonctionné. Et c'est vraiment un drame parce que, en fait, ils créent le malheur de l'autre. Dans la nature, ça n'existe pas. Et chez le loup, en tout cas, ça n'existe pas. C'est passionnant, le jeu.
Et si nous imitions les chiens dans nos retrouvailles sociales et amicales, les chiens qui nous font la fête quand nous rentrons, cette joie, je vous cite, pure et parfaite que le chien témoigne à son maître quand il le revoit.
C'est magnifique parce que il y a ce côté très spontané, absolument sincère et d'une joie folle qu'on perd parce que on perd finalement à cause de l'habitude de voir les gens qu'on aime peut-être, on ne valorise plus le fait de se retrouver et il faut des occasions pour faire la fête alors que le chien fait la fête 15 fois par jour. Donc c'est ce qu'on disait sur la joie et c'est ce qui me faisait réfléchir aussi à Spinoza qui est aussi le philosophe de la joie justement. La joie qui peut être parfois décriée, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'un peu naïf ou enfantin.
Bébête,
par opposition, mais par opposition à la lucidité qu'on a parfois en philosophie où la lucidité, elle a l'apanage aussi de la gravité. Voilà. Et en fait, le chien, c'est la joie et c'est la joie retrouver et cultiver, qu'on devrait justement cultiver plus.
Et les chiens semblent nous dire « je te revois le soir et cela me rend pleinement et profondément heureux, enfin tu es rentré ». Guillemette Odissino.
Non, j'aimerais juste que mon mec pense ça en fait. Non, pardon.
Et qu'il remue la queue le matin.
Et je jure de lui envoyer une babale.
Audrey Jouglin, de quelle façon votre chienne vous a-t-elle appris à habiter le présent ?
Avec, pardon, je ris encore. avec finalement un rapport au temps qui est de se dire ce qui est là est là, il y a rien d'autre. Et c'est aussi une forme d'acceptation, c'est-à-dire que ça nous coûte énormément, c'est-à-dire accepter ce qui est. Donc c'est à la fois le rapport au temps et à la fois un enseignement sur l'acceptation et donc une grande leçon de liberté aussi. De se dire, voilà, en fait, la réalité, le réel, c'est ce qui est là, ici et maintenant, pas autre chose. Et encore une fois, à cause de notre esprit, on a tendance à se perdre dans des circonvolutions du futur, du passé, et à très peu habiter le présent. Ça nous coûte énormément d'être là, ici et maintenant. Et non seulement, je pense que c'est quelque chose qui nous rend beaucoup plus heureux d'avoir ce rapport-là au présent, mais aussi c'est quelque chose qui nous permet d'accepter ce qui est et de ne pas toujours être en train soit de gémir, se plaindre, ce que disent les stoïciens, mais être capable de faire face à ce que la vie nous envoie, en fait. Que ce soit bon ou mauvais, c'est comme ça.
Audrey Jouglin.
Moi, c'est Yolaine Delavigne.
Richard. Yolaine Delavigne. Pardon. Yolaine Delavigne, pardon.
Dans cette joie formidable, parce qu'en effet, c'est ce que nous offrent les animaux, il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est le pardon. Les animaux, beaucoup de chiens, malheureusement, sont battus, maltraités, etc. Et vous pardonnent toujours, ce qui est quand même assez incroyable. Et le pardon, c'est une des armes de la survie. En fait, quand vous avez de la rancune tout le temps, quand vous avez de l'amertume, non seulement vous pourrissez la vie des autres, on le voit bien avec Poutine, en fait, il crée une guerre parce que, parce qu'il rêve que la Russie ait la même puissance que l'URSS, donc il y a beaucoup de rancune là-dedans. La plupart des guerres sont d'ailleurs de l'amertume. Et c'est dommage parce qu'on, c'est pas finalement très intelligent, parce qu'on crée encore plus d'amertume, encore plus de malheur, etc. Les animaux nous donnent beaucoup de leçons là-dessus parce que, le pardon, c'est, ok, j'oublie pas. Je sais que tu m'as battu, donc je me méfie. Mais à quoi ça sert de continuer finalement? Je vais pourrir ta vie, mais je vais pourrir la mienne aussi. Donc ils ont cette arme extraordinaire qui est vraiment une arme de survie, le pardon.
Alors l'une des qualités que vous chérissez chez les chiens, c'est qu'ils ne trichent pas. Pour vous, leur franchise force le respect.
l'authenticité en effet de l'animal, enfin et du chien en particulier, c'est une qualité exceptionnelle. On a beaucoup de mal, encore une fois, dans le livre j'essaie d'évoquer les travers de notre société aussi, parce que c'est pas uniquement notre humanité, mais c'est aussi la société qui nous pousse à endosser des étiquettes, des rôles, à avoir des rôles sociaux, et aussi à tricher ou à mentir, une certaine forme de malhonnêteté qu'on peut avoir dans nos rapports sociaux. Et tout ça, ça renvoie aussi à une forme d'ego, c'est-à-dire que forcément, le chien n'a pas d'ego, il est d'une sincérité brutale, et il est ce qu'il est. Et il aime son maître de manière, en effet, inconditionnelle, quoi que soit ou quoi que devienne son maître.
Alors vous célébrez la fidélité du chien, mais c'est peut-être parce que vous lui offrez le gîte et le couvert.
Et c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que finalement, ce serait une
fidélité.
C'est
ce que pense Guillemette Odissino, je lis dans ses pensées.
Je m'intéressais. Non, mais ça revient
un peu
à la...
c'est le chat du rabbin, en fait. il comprend tout.
La fable de Jean de La Fontaine sur le chien et le loup, on peut penser à ça. Mais finalement, non, je pense que le lien, et ceux qui ont un chien vous le diront, le lien qu'on a avec son animal est indéfectible et il va bien au-delà de l'intérêt.
Non, parce que vous êtes sa famille. En fait, le chien, il vit en meute, et vous êtes devenu son père, sa mère, ce que vous voulez, le mâle alpha, on l'appelle comme on veut. Donc, bien sûr, vous le nourrissez tant mieux, comme votre mère, c'est sympa qu'elle vous nourrisse. Mais même si elle vous nourrit pas bien, vous allez l'aimer quand même. Donc, le chien a exactement ce rapport-là avec vous.
Les chiens sont-ils capables de distinguer le bien et le mal ?
C'est une vraie question. J'ai tendance à... Moi-même, avant, je pensais que les animaux n'avaient pas de sens moral, que c'était là encore impropre de l'homme. Ça a été largement étayé en philosophie. Et puis, il y a des études plutôt récentes.
En 2017, des chercheurs de l'université de Kyoto ont tenté d'évaluer le sens moral des chiens.
Oui, par rapport au comportement d'un autre individu avec leur maître. C'est-à-dire que c'était pour voir quel était le jugement moral du chien par rapport à quelqu'un qui refusait d'aider leur maître. Et cette personne leur offrait une friandise. Donc là, justement, c'était pour mesurer l'intérêt du chien. Et le chien était sanctionné, en fait. Il refusait, justement, d'accepter ça de la part de celui qui avait eu un mauvais comportement avec le maître.
Alors, les animaux ont une morale, ça c'est clair. Ils n'ont pas d'éthique, parce qu'on souvent on confond un peu les deux. Ils n'ont pas d'éthique. L'éthique, ça, elle évolue en fonction des époques. On n'a pas la même éthique aujourd'hui que celle des Romains ou des Égyptiens que ça. Par contre, la morale, qui est quelque chose d'universel. En gros, je ne tue pas, je respecte à peu près les autres, parce que sinon je mets en danger le groupe. Une fois de plus, c'est une intelligence de vie. Tous les animaux ont une morale. Sinon, on ne peut pas vivre. Même dans la nature, on n'y arrive pas.
C'est la thèse de Darwin.
Ah oui, absolument.
Enfin,
absolument.
De dire que ça a été Darwin disait ça, quelque chose par rapport aux animaux qui s'est mis en place pour des questions de survie.
Tout à fait.
Alors Audrey Jougla, ce que vous aimez, eh bien, c'est que les chiens acceptent les choses telles qu'elles sont. Ils nous enseignent à accepter ce qui est quand nous n'avons pas d'autre recours.
Oui, et c'est très difficile, et j'en parle dans le livre à travers un chapitre où c'était compliqué pour le coup dans ma vie personnelle. Et voilà, j'avais tendance à me plaindre, à refuser d'accepter ce qui n'allait pas et en être très malheureuse. Et je me suis dit, non, au contraire, t'enseignes justement les stoïciens à tes élèves, essaye d'appliquer ces principes-là, que ton chien a l'air finalement d'appliquer sans le savoir, c'est-à-dire accepter la réalité, et surtout faire avec les épreuves, et surmonter les épreuves, et donc une fois qu'on a compris ça, et ça demande beaucoup de travail, je pense, de surmonter justement ce qui est difficile, et de faire ce qui est en notre pouvoir. C'est-à-dire accepter de changer ce qui est en notre pouvoir, et on peut pas tout changer.
Mais vous parlez d'acceptation, hein, pas de résignation.
Oui, exactement, ce qui est très différent. Voilà, très très bon. Ce qui est très différent, c'est-à-dire que c'est pas une lecture résignée de la réalité. Au contraire, c'est de dire j'accepte, mais c'est simplement une remise, c'est remettre à sa place ce qui m'appartient de changer et ce qui ne m'appartient pas. Et être capable de faire ce travail de discernement entre les deux.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est intéressant parce que il y a au fond cette inspiration et cet enseignement que le chien peut délivrer, c'est aussi une inspiration et un enseignement silencieux. Silencieux au sens où En fait, on peut avoir l'impression d'apprendre énormément de choses, etc. Mais il y a quelque chose qui n'est pas possible, en tout cas, je crois, jusqu'à présent, enfin, à ma connaissance, c'est de d'avoir une conversation, en fait, avec son chien ou avec son chat, etc. Alors que, quelles que soient les différences de langue entre différentes cultures humaines, on trouve des systèmes de traduction, etc. Souvent, cet argument-là a été employé pour refuser aux chiens, enfin aux animaux et aux chiens en particulier, une forme d'intelligence, de sensibilité, de sens moral, de jugement, etc. Là, ce qu'on entend dans l'expérience que vous décrivez et dans cette relation que vous avez construite, c'est que au fond, on peut compenser cette absence de conversation par un travail donc d'écoute, d'observation et d'interprétation aussi d'une sorte de langage qui serait son propre à lui et que vous décodez. Vous n'en aurez jamais exactement la signification profonde, mais c'est ça qui déclenche en fait une forme de oui, moi je dirais quand même une forme de conversation.
Oui, tout à fait. Et juste pour ajouter, ce qui est très spécifique au chien, c'est qu'il a un regard directionnel. Et donc ça passe aussi beaucoup par le regard, cet échange en fait, muet et silencieux.
Oui, le chat aussi il vous regarde. je suis absolument désolée. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord parce que si l'animal finalement il peut être exemplaire ou en tout cas réconfortant sans être dans l'ingérence, c'est justement par ce silence en fait, il fait la morale sans ouvrir la bouche. C'est magnifique.
Alors Audrey Jougla, avant que vous ne deveniez mère, Comédie vous a appris ce qu'était l'amour inconditionnel.
Oui, c'est-à-dire que on aime déjà, enfin en tant que maître, on apprend à aimer un autre être et à le faire passer avant ses propres besoins ou avant ses propres envies. Donc en effet, on sort de sa sphère individualiste, je pense, en tout cas je l'espère, quand on prend un animal, puisque lui n'a pas choisi d'être avec vous et donc c'est sous votre responsabilité ensuite que vous devez vous en occuper. Et surtout l'amour inconditionnel que le chien vous porte, c'est-à-dire que dans la vie et ça. Je pense que c'est ça qui est extrêmement fort avec son chien. Les gens vont et viennent. Ils sont pas toujours là. Je suis un peu émue en vous disant ça. Mais c'est vrai. Et finalement, le chien... Excusez-moi.
Non, allez-y.
Le chien est toujours là. Et c'est vrai que je pense que tous les maîtres se rendre compte de ça. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fort, d'avoir ce lien, quoi qu'il arrive, quoi qu'on devienne, avec son chien.
Yolaine Delabille.
Sur l'amour que votre fille vous a appris, je trouve que l'amour du chien et des autres animaux aussi d'ailleurs vis-à-vis de leurs petits est très intéressant aussi parce que c'est à la fois un amour très fort et en même temps c'est un amour très ferme. Alors que nous on a souvent tendance avec l'enfant roi à avoir des rapports un peu étranges quand même finalement avec nos enfants avec un peu d'excès. Je trouve que là aussi les animaux souvent ont une bonne mesure entre préparer son petit à l'avenir avec la dureté qu'il faut et en même temps l'aimer inconditionnellement.
En tout cas, Audrey Jougla, à la lecture de votre livre, on se rend compte que le maître n'est pas forcément celui qu'on croit.
Oui, tout à fait.
Et merci pour votre belle émotion. 10h47, l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Et ce matin, Thibaut, vous plongez au cœur de la douceur qu'on a beaucoup entendue avec notre invité. Hein,
c'est ça, on prolonge. Je voulais vous parler ce matin du livre de la philosophe Anne Dufour-Mantel, Puissance de la douceur, à l'occasion de sa sortie en format poche la semaine prochaine, un mercredi, aux éditions Rivage. Et c'est une excellente nouvelle que ça sorte en format poche, parce que ainsi, chacun et chacune d'entre nous pourra garder dans sa poche ce petit bijou de philosophie contemporaine. Il y a des textes, franchement, qui sont des illuminations, et celui-ci en fait partie. Comme le dit la préface, c'est un livre qui prend la forme de ce dont il parle. C'est un livre tout doux, simple et direct, sans jargon technique, mais d'une grande justesse et qui nous invite donc à prendre conscience de la puissance de la douceur. Et vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que notre monde et nos vies ont en ce moment bien besoin de douceur pour dépasser les tensions de l'affrontement politique actuel ou pour adoucir le drame de la violence guerrière.
Mais la douceur n'est-elle pas avant tout fragile ? À quoi peut bien tenir sa puissance ?
Eh bien, si la douceur est puissante, nous dit Anne Dufourmentel, c'est parce que sans elle, la vie ne peut pas se développer et s'augmenter. Elle est une puissance de transformation secrète qui fait grandir les enfants, qui entretient la puissance des liens avec les autres, avec un chien donc, avec le monde, mais aussi avec les autres formes de vie, donc les animaux, tous les animaux, les végétaux, et même, dit-elle, avec le minéral et le stellaire. Entre croissance et décroissance, par exemple, elle est une invitation à repenser une relation harmonieuse avec la nature. La douceur, c'est pas un concept classique de la philosophie, comme la justice ou la vertu ou la liberté. Elle ne se définit pas facilement, mais elle s'approche à travers différents tableaux qui sont autant donc de petits chapitres dans ce livre et qui nous conduisent à la reconnaître à l'œuvre. Elle est aussi bien une qualité de présence sensible, un toucher, un jeu de couleurs dans la lumière du soir, la mélodie de quelques notes suspendues, aussi bien que la sensation de comprendre une idée ou d'entrer dans l'intelligence d'une situation ou d'un problème théorique. Mais surtout, la puissance de la douceur, c'est qu'elle anime et recompose sans cesse nos relations. Politiquement, par exemple, elle est une sorte de passivité active qui peut être une force symbolique prodigieuse et renverser contre toute attente un ordre politique. C'est le choix, par exemple, de la non-violence et de la simplicité de vie et de l'attachement à la vérité que fait Gandhi et qui conduit à l'indépendance de l'Inde. C'est la puissance du rêve de Martin Luther King. Moralement, la douceur est une invitation à devenir meilleur. Elle invite à l'écoute, à la compassion et au pardon. Sa puissance ne vient pas de ce qu'elle déploie tout un ensemble de solutions, mais de ce qu'elle augmente la qualité de présence aux autres et à soi-même, jusqu'à nous permettre de ressentir, malgré les difficultés, toute la douceur qu'il y a à vivre. Voilà, faites-vous ce petit cadeau de 133 pages, Puissance de la douceur de Anne Dufourmentel. C'est disponible donc mercredi prochain en poche aux éditions Rivage, et vous verrez, comme le dit la citation qui ouvre le livre, la douceur est invincible.
Et Audrey Jougla, vous citez Anne Dufourmentel dans votre livre.
Oui, sur l'hospitalité notamment, parce que le chien nous apprend aussi à accueillir, ou ne pas accueillir, à refuser aussi certains indésirables, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, il nous pose la question du seuil, de la porte et de qui on accueille. Et Anne Dufourmentel avait beaucoup travaillé sur l'hospitalité notamment.
Maya Mazorette.
Anne Dufourmentel a écrit plein d'autres bouquins super. Julien Bisson, notre chroniqueur du 1, m'a recommandé récemment La Sauvagerie Maternelle, je viens de le terminer, c'est génial.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a podcasté sur l'appli France Inter, et n'oubliez pas d'écouter ce soir à 20h, l'heure philo de notre camarade Patricia Martin. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Les enfants qui écoutent peuvent peut-être aller jouer. Et avant ça, on écoute Charlotte Adigéry, Making Sense Stop.
So it is time to
Stop.
Ouh. Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux pas obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et il est temps de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. On a parlé de chiens pendant toute l'émission. Et avec toi, on passe au sexe bestial.
Et je vais commencer par rassurer les gens qui nous écoutent. Le sexe bestial, ça veut plus du tout dire le sexe avec des bêtes, pour plein de raisons morales, mais aussi pour une grosse raison légale. L'article 521.1 du Code pénal qui stipule que les sévices de nature sexuelle envers un animal sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ça va mieux en le disant. Alors ensuite, moi je suis assez vieille pour me rappeler qu'autour de l'an 2000, il y avait des VHS zoophiles dans les sex shops. Aujourd'hui, il reste des sites dédiés à cette niche, vous l'avez. C'est pas grave, je tente. Hein. Mais sur des grosses plateformes, on voit bien que ça fait plus trop recette. La 6e extinction de masse se ressent dans notre imaginaire érotique. Ça se voit dans les enquêtes où la question du désir pour les animaux n'est même plus posée. Ça se voit dans les recherches Google. L'intérêt pour la zoophilie a été divisé par 10 en 20 ans. Et c'est pareil en anglais pour le mot-clé « bestiality ». Mais tant mieux en fait, pour une fois personne pourra dire que c'était mieux avant.
Donc il n'y a plus du tout de bêtes dans nos fantasmes ?
Alors si, mais de manière fictionnelle ou métaphorique. L'érotisation des animaux passe désormais à la moulinette de la pop culture, elle va s'exprimer dans des univers imaginaires inspirés de l'esthétique hentai et du mouvement furry. Vous venez bien sûr de comprendre ce que je viens de dire ?
Non,
pas du tout. Oui. Voilà. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce processus de sublimation, les bêtes servent plutôt à révéler une part de notre humanité. Et quand on parle de sexe bestial, en fait, il n'y a même plus un poil ou une nageoire qui dépasse. Le sexe bestial, c'est juste une métaphore qui désigne le sexe pulsionnel, brutal, incontrôlable. Et là, on rentre dans le royaume des paradoxes. D'un côté, les recherches pour ce sexe brutal ont triplé depuis 20 ans avec un pic en 2015-2016, juste avant MeToo. Et d'un autre côté, les recherches sur le mot consentement ont également triplé sur cette même période. Alors je sais, c'est contre-intuitif, parce qu'a priori, le sexe bestial se passe du consentement. Alors comment on fait pour accrocher les wagons ? Bon, déjà, on rappelle qu'on a le droit de fantasmer sur une chose et son contraire. On a le droit de faire des grands écarts intellectuels. On sait que les grands écarts, c'est toujours plutôt pas mal. Et deuxièmement, on n'est pas obligé de séparer le sexe bestial du sexe policé. Bien au contraire, il suffit de faire du « en même temps ». On peut consentir à du sexe brutal en toute connaissance de cause, parce qu'on aime ça, parce qu'on a confiance en l'autre, parce qu'on a besoin de se mettre en danger... ou parce qu'une époque de surveillance constante de soi et des autres, on a besoin de perdre un peu le contrôle. Et à mon avis, c'est là qu'il faut chercher la clé de notre attraction pour le sexe bestial. C'est la seule modalité qui nous permet de débrancher le cerveau. Il y en a bien besoin. Aujourd'hui, on a tendance à être dans le contrôle de nos émotions et de notre image. On intellectualise nos levrettes et missionnaires. On psychanalyse les menottes. On demande au sexologue si on est certifié conforme. Et tout ça ne fait qu'augmenter notre désir de vivre une sexualité débridée sur le fil du rasoir. Et cette pulsion, plutôt que de l'exprimer au premier degré, on l'exprime par une bestialité stylisée, ritualisée et finalement très contrôlée. Faites sortir la bête par la porte, elle rentrera anthropomorphe par la fenêtre. Rien n'est plus humain que l'aspiration au sexe bestial.
Maya, c'est quoi le mouvement furry ?
Alors, le mouvement furry, c'est un mouvement sexuel, mais pas que, qui consiste à s'habiller avec des espèces de costumes qui ressemblent à ceux d'animaux. On appelle ça
Merci.
Des fursuits.
Merci pour la précision. La chronique sexe de Maya Mazorette à réécouter seule, à deux ou à plusieurs sur l'appli France Inter. Merci beaucoup Audrey Jougla. Je Merci recommande vivement Montaigne, Kant et mon chien, petite philosophie canine. C'est un court essai de 120 pages. 125
accessible.
Pages.
Parce que je sais que la philosophie, ça peut toujours faire un peu peur. Alors, c'est accessible à tous.
Et c'est publié chez Delachaux et Niestlé. Merci. Merci beaucoup Yolaine Delabine. Vous reviendrez nous parler de votre livre Les 12 sagesses des animaux, paru chez Le Duc.
Merci Ali.
Demain j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans l'émission Bel et Bien sur France 2 avec Agathe Le Caron, André Manoukian et Christophe André. Et lundi dans Grand Main vous fasse, comment prendre soin de sa peau. Toutes vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter.